La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
On est toujours lundi 25 janvier, vous écoutez la midinale de Radio Piquet. On est dans la deuxième partie, s'informer autrement. Et on va commencer avec Steph, qui va nous parler de littérature haïtienne.
Ouais, ça faisait longtemps. En fait, je vais parler d'un auteur haïtien, je vais parler de Lionel Trouillot. Alors pourquoi j'en parle là? C'est parce qu'il vient tout juste de sortir un nouveau roman. Donc le nouveau roman s'appelle Antoine des Gommiers. Et en fait, je l'ai lu, c'est un très beau roman qui va reprendre un peu toutes les thématiques importantes dans l'œuvre de Trouillot. Juste pour situer qui il est, Lionel Trouillot, c'est un auteur, enfin il écrit des romans, il est journaliste, il est poète, c'est aussi quelqu'un qui est hyper investi en Haïti pour la scène culturelle. Il vit toujours à Port-au-Prince. Et en fait, comme il explique vachement mieux que moi ce que c'est que son travail, qui il est, on va écouter un son qui dure 9 minutes. C'est un son qui vient d'un super site qui s'appelle Île en Île. Ce site-là, c'est un site de référence sur toutes les littératures des Caraïbes, de l'océan Indien, et particulièrement un site de ressources importantes sur la littérature haïtienne. Alors, on va écouter, c'est un format qui est plus long. Normalement, j'ai coupé quelques passages, ça dure 9 minutes. Pardon pour le son, l'interview de Lionel Trouillot a été réalisée dans la rue à Haïti. Donc on écoute.
J'habite un quartier qui n'est pas un quartier. Il y a 4 maisons de semi-riches, dont la mienne, et un bidonville. Et il n'y a pas forcément grande communication entre ces 4 maisons et le bidonville, au moins entre 2 de ces maisons et le bidonville, puisqu'on est voisins, ma soeur et moi, et j'ose dire qu'on a quand même développé des contacts et des relations avec les pauvres du quartier. Et surtout qu'on a créé un centre culturel dans ce quartier même et qui devient un élément important de la vie du quartier, dans l'idée justement d'avoir des gens d'origine sociale différente, de conditions sociales différentes, qui se fréquentent, qui partagent une humanité, qui partagent des interrogations sur le monde. Et il y a donc d'une part à l'intérieur de quelques maisons le confort petit bourgeois nécessaire à la vie des petits bourgeois, et il y a à côté une énorme pauvreté, des conditions d'existence extrêmement dures. Et donc, moi je pense que vivre là, ça me permet de ne jamais me tromper de pays. J'ai conscience de vivre dans cet ensemble qui s'appelle Haïti, qui est surtout fait d'inégalités sociales, d'injustices sociales. J'ai sous les yeux, tous les jours, au quotidien, l'évidence de cette injustice sociale. Et comme personnellement, j'écris avec le regard, mais je ne regarde que les humains, je peux très mal parler des plantes. Je sais qu'il y a quelques arbres. Je sais aussi qu'il y a, un univers physique, géographique, mais j'ai très peu de compétences pour en parler. Moi, c'est les yeux des enfants que je regarde surtout. Et je vois parfois la douleur dans les yeux des enfants et je vois cette envie de vivre aussi que l'enfance porte. Et comme je fréquente les petites maisons du quartier, j'aime bien aller bavarder avec les enfants du quartier et être témoin de leur désir de vivre. Je ne sais pas, moi, j'essaie d'écrire des... Chaque livre est pour moi un système. Et moi, je ne me définis pas comme écrivain, je dis que je suis un citoyen haïtien qui écrit. Et quand j'écris, je suis au service du livre. Donc le livre est un système autonome, et moi, mon travail, c'est comme un artisan qui veut réussir une pièce. Mon travail, c'est de faire cette pièce aille vers le meilleur d'elle-même, vers les meilleures possibilités qu'elle peut s'offrir à elle-même. Et donc, sur la thématique, fondamentalement, c'est toujours la tension entre le jeu et le nous. Le nous dans une société comme la société haïtienne, qui est déjà un nous impossible, puisque les différences de classe sont telles qu'il n'y a pas de sphère commune de citoyenneté en Haïti. Il n'y a pas un nous haïtien qui réunisse tout le monde. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Les riches en Haïti, Haïti, ce n'est pas leur pays, c'est leur commerce. Et les autres, ils sont dans une situation, je dirais, de revendication perpétuelle, une revendication qui peut aller jusqu'à la haine. Donc, c'est le mépris d'un côté, la haine de l'autre. Comment construire une humanité là-dedans? Et tous les petits livres que j'écris, surtout en ce qui concerne les romans, c'est justement explorer cette tension entre l'individualité voulant être à elle-même et l'impossibilité de ce nous non existant. Donc il y a des livres dans lesquels il y a une vision plus optimiste, où il semble y avoir cette réconciliation rêvée. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus pessimistes ou plus réalistes, dans lesquels on voit l'échec de cette tentative de créer un jeu qui soit dans une harmonie avec la collectivité, avec le monde. Et tous mes livres, je crois, tournent autour de ça. De préférence en terre haïtienne, simplement parce que la réalité haïtienne est celle que je connais le mieux. Et comme je le dis souvent, j'écris avec le regard. J'écris avec les données du réel. Et j'invente très peu d'anecdotes. La plupart des anecdotes qui sont dans mes livres sont des anecdotes que j'emprunte à la réalité. Évidemment, je les déplace, je les rassemble, je fais un petit travail de bricole. Mais fondamentalement, les anecdotes sont tirées de la réalité. Et les mots que je mets dans la bouche des personnages sont des mots que j'ai entendus assez souvent. Et quand les gens me disent que vous écrivez des romans très durs, comment vous faire pour avoir une imagination aussi dure, je dis, mais écoutez, je n'ai rien imaginé de ce que j'écris, comme cette phrase terrible, sur laquelle d'ailleurs plusieurs critiques m'ont interpellé. Dans l'un de mes livres, il y a un personnage parlant des bidonvilles de Bangui. C'est un personnage qui dit que quant aux bidonvilles, il faut souhaiter que les pluies nous en débarrassent. Ça paraît très fort. Quelqu'un qui vit dans un pays et qui souhaite que les pluies noient la population des bidonvilles. Cette phrase, je l'ai entendue dans la bouche d'une gamine de 17 ans. Évidemment, issue de la grande imagination. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la réalité, encore une fois. La question pour moi, c'est d'explorer cette tension entre le jeu et le nous, et de dire, et si quand même on pouvait faire un monde habitable. Essentiellement, c'est ça. C'est ça, ma modeste démarche dans les livres que j'écris. Tout en essayant le plus possible d'éviter que ce soit moi qui parle. J'avoue que je ne suis pas du tout un fan de cette littérature, de l'exposition du sexe brandi, du nombril à montrer. Je pense qu'il y a d'autres enjeux derrière la littérature que l'exposition personnelle. Et la question des enjeux me tourmente à chaque texte que je publie. Parce que je tiens à faire une différence entre écrire le texte et le publier. Publier un texte est pour moi toujours un acte hautement social, un acte hautement politique qui forcément pose la question de la responsabilité de celui ou de celle qui met ce texte en circulation. Quand je mets un texte en circulation, je sais que je pratique un art de la traque, un art du désordre. J'essaie de foutre quelque chose dans l'esprit ou dans l'inconscient de celui ou de celle qui se laisse tromper par le livre et qui prend la peine de le lire. Pour moi, la littérature relève encore de l'idéologie, même si elle n'est pas réductible à l'idéologie. Donc, quant aux langues, je pense que la plupart des écrivains haïtiens, enfin ceux que je considère importants personnellement, écrivent aujourd'hui dans les deux langues. Et de plus en plus, ce que je constate et ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est souvent la langue qui le texte qui choisit sa langue. Ce n'est pas tant comme autrefois. Autrefois, écrire en créole, quand j'ai commencé à écrire en créole, c'était un acte politique. Puisque l'establishment littéraire et l'establishment politique de l'époque ne considéraient pas le créole comme une langue. Maintenant, il y a énormément de progrès de fait. Il y a quelques victoires, même si on n'est pas encore à la victoire finale, je dirais, quant au respect dû à la langue créole. Mais les choses ont évolué et on peut écrire dans une certaine tranquillité aujourd'hui dans les deux langues. Donc, quand il m'arrive de commencer un texte en français, on dirait que le texte me dit « maintenant, je ne fonctionne pas en français ». Et quand je passe au créole, ça fonctionne. Et l'inverse aussi. Donc aujourd'hui, je me sens très libre d'écrire dans les deux langues, sous la dictée du texte. Et moi, je me définis comme un citoyen haïtien qui écrit, donc écrire n'est pas forcément mon activité principale ou essentielle. J'enseigne, je fais beaucoup d'activisme culturel. Dans le quartier où j'habite, on a créé un centre culturel d'ailleurs. C'est du bénévolat et le centre, il existe et il rend service à la communauté. Pour moi, dans cette société fondée sur l'injustice, quand on a eu la chance de bénéficier de quelques avantages, on a quelque chose à restituer, quelque chose à rendre. Et moi, j'essaye de passer une partie de mon temps à rendre. Et rendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer la transmission. On parle beaucoup d'Elani Laferrière et de l'intrure. Je ne sais pas s'ils sont de bons écrivains, mais ils sont peut-être malheureusement pour Haïti les écrivains d'Haïti les plus connus ou parmi les plus connus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait d'autres. Et qu'ils ne soient pas de la même origine sociale, petite bourgeoise, qui viennent d'autres milieux et qui puissent parler de leur réalité. Moi, c'est ouvrir justement le champ des biens et services culturels à l'ensemble de la population. Et je considère ça comme étant mon activité principale. Et je donne beaucoup de temps à faire cela. J'ai créé les Vendredis littéraires. C'était le seul espace en Haïti où des gens, justement de milieux différents, de conditions différentes et même de statuts littéraires différents, pouvaient se rencontrer, discuter, partager quelque chose. Donc, pour moi, il faut amener ce qui leur a été refusé aux parties de cette population qui n'ont rien. Et pour moi, c'est peut-être plus essentiel dans ma vie d'individu que la liberté que j'ai.
Voilà, donc c'était Lionel Trouillot qui parlait de son travail. Et en gros, ce que moi j'en retiens, c'est qu'il dit qu'il n'est pas écrivain, qu'il est un citoyen haïtien qui écrit. Et en fait, toute l'œuvre de Trouillot, quoi qu'il écrive, elle est. C'est juste une. Enfin, c'est pas juste, hein, c'est une tentative d'illustrer la société dans laquelle il vit, la misère extrême. Dans laquelle sont plongés la grande majorité des Haïtiens. Et son dernier livre, là, Antoine Desgommiers, c'est un livre un petit peu particulier. Il va parler de... Évidemment que ça va être traversé par ça. Antoine Desgommiers, c'est un personnage un peu... C'est un personnage réel, un Haïtien, mais un peu légendaire. C'était un devin. C'était aussi un chef vaudou. Et donc, qui est connu pour ses prophéties au pied de l'arbre. Il a vécu avant la Seconde Guerre mondiale. Les gens traversaient Haïti pour aller le consulter. Et il est dit de lui qu'il a vu tout venir, les malheurs comme les bonheurs. Et il y a un petit dicton en Haïti qui est souvent répété, « Si tu persistes dans l'erreur, il t'arrivera un malheur que même Antoine Desgommiers n'aura pas vu venir. » Et le livre est construit de manière à ce que un chapitre sur deux, à peu près, on a la vie légendaire d'Antoine Desgommiers. C'est assez drôle. Et puis un chapitre sur deux, on suit deux frères, Francky et Titoni, qui seraient les descendants de loin de Antoine Desgommiers. Les deux frères sont extrêmement différents. Francky est un intellectuel qui passe sa vie dans les livres. Ils sont extrêmement pauvres. Ils vivent dans un bidonville qu'ils appellent le Corridor, qui est dans la grande rue, le grand boulevard Jean-Jacques de Salines à Port-au-Prince. Ils vivent dans une misère extrême. Et Francky réussit ce truc magique d'avoir des livres à lui, qu'il va lire, relire. Francky est aussi handicapé, cloué à un fauteuil roulant qui ne fonctionne pas. Et son frère, lui, il est vachement plus dans la réalité, c'est-à-dire qu'il faut bien faire bouffer les gens. Et donc, il travaille dans ce qu'on appelle une banque haïtienne. Une banque haïtienne, en fait, c'est une toute petite échoppe déglinguée où les gens pauvres viennent miser quelques sous, les quelques sous qui leur restent, sur de la loterie américaine quand vraiment ils sont désespérés. Et en fait, c'est la vie de ces deux frères qui viennent juste de perdre leur mère, qui s'appelle Antoinette, et qui essaie de se dépatouiller dans tout ce merdier, l'un franchement ancré dans la réalité, et l'autre en train de s'inventer un passé héroïque pour pouvoir supporter le réel. Je vais lire un passage de Antoine Desgommiers, puis après je vous parle d'autres bouquins. Le passage, là, il se situe à la moitié du livre, et c'est le moment de la veillée de Antoinette, de leur mère. Et c'est toujours Titoni qui parle, celui qui est dans la réalité. Bravo, mon frère. Tu avais convoqué la mémoire du grand Antoine et les vieux contes populaires. Antoinette n'était plus là pour s'en réjouir, mais elle aurait sans doute apprécié. Le conteur nous avait rajeunis. À la fin, même le pasteur de l'église de la dernière chance avait posé sa Bible sur son siège pour applaudir. L'homme âgé qui lui avait servi d'accompagnateur, c'était autre chose. Quand il s'est mis à chanter les paroles de son répertoire, nous sommes tous devenus des adultes, même les enfants. Plus question de sirènes faisant l'amour avec les mortels, de baleines ventrues, gros ballons d'eau pas vraiment méchantes, d'orangers qui montent au ciel et de trésors cachés sous la terre. La misère au quotidien, la révolte, le retour brutal à la réalité, nos vies, quoi. La figure de style n'aurait pas été au goût de Maître Cantave, qui détestait les mots crus. C'était laid comme la vérité, beau en même temps. Une belle laideur qui nous ramenait à ce que nous étions. Loin du bleu de Francky. Étrange, la misère ne tue pas le chant. Quelques personnes dans l'assistance connaissaient les chansons et entonnaient les refrains. La révolution, le temps d'une veillée. Le lendemain, Danilo m'a demandé combien ça allait nous coûter, les prestations de la veille. Mais rien, c'est gratuit. Francky leur a juste demandé et ils sont venus. Danilo a quand même insisté. Francky avait pris un gros risque en invitant un chanteur engagé, détesté par les gangs et les forces de police. Ses concerts se terminaient en général par des émeutes. Passe encore pour l'étudiant de l'École normale des arts, avec ses comptes un peu débiles. Mais ce chanteur, sa voix, ses mots, c'est une déclaration de guerre. Vraiment, Francky, il exagère. Hé, Colonne, je t'emmerde. Mon frère, il a bien fait. Il n'est pas comme nous. Il connaît du monde. Et la vieille, tu crois pas qu'elle avait droit rien qu'un soir, pour entrer sereine dans sa mort, aux merveilles et à la colère qui lui ont manqué dans sa vie? De quoi il se mêlait, Danilo? Antoinette était partie. Il ne me restait que Francky. Je n'allais pas me chercher des raisons de le critiquer. Francky et moi, c'est pas comme dans ces séries télévisées où les membres d'une famille n'arrêtent pas de se chamailler. Pour les biens, ou juste pour savoir lequel a le plus d'importance et d'influence au sein du clan. Le mot n'est parfois qu'un mensonge qui ne nomme que le statut et ne désigne pas ce que tu fais. Frère, maman, famille. Nous, on n'a jamais utilisé des mots comme ça, Francky. Francky, c'est mon premier colonne, avec lequel je suis soudée. Pas de place pour glisser un doigt. Nous, on n'a ni bien, ni clan. On a toujours su que notre seul héritage à chacun, c'était l'autre. Francky, il va chercher ailleurs, en nous inventant une histoire. Mais peut-être est-ce pour enrichir notre façon d'être seul au monde. La famille, on ne sait pas ce que c'est. On est deux gosses sur une photo. Le collier, on l'a mis dans le cercueil avec Antoinette. Deux gosses sur une photo. Avec même pas un collier. Pour faire le lien avec quoi que ce soit. Donc ça, c'était le livre Antoine Desgommiers. Je voulais vous parler de deux autres livres que j'adore, de Trouillot, deux autres romans. Un qui s'appelle Bicentenaire, et qui a été écrit en 2004 pour célébrer les 200 ans, le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Donc l'indépendance d'Haïti, c'est 1er janvier 1804. Et la bicentenaire, ça vient raconter quelques heures dans la vie d'un étudiant qui part de chez lui un matin et qui va rejoindre une manifestation. C'est une manif d'étudiants, mais rejoint assez vite par la population pour faire valoir ses droits. Je vous lis juste le tout petit passage, enfin le chapitre qui ouvre ce livre. Certains lecteurs jugeront peut-être nécessaire d'établir un lien entre ce récit et les événements politiques qui marquèrent le bicentenaire de l'indépendance de la République d'Haïti. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ne serait donc en rien le produit du hasard, mais un effet délibéré autorisant le lecteur à démêler le vrai du faux, à vérifier les faits auprès des chroniqueurs, et la seule conclusion intéressante consisterait à classer le conteur parmi les bons ou les mauvais, selon sa relation des faits. L'erreur viendrait de croire que le récit commence avec la phrase la moins vraie, celle qui amorce le piège. L'étudiant descendait la colline en caressant le sol de ses pas pour ne pas réveiller son frère. Cet étudiant, qui pourrait s'appeler Lucien Saint-Hilaire, son frère, qu'on ne désignera ici que sous les sobriquets Le Petit et Little Joe, n'existe pas, comme leur mère et la mère et tous les autres personnages. Tout ne peut être qu'imaginer les dialogues, les parcours, la ville, le contexte. Tout ici ne renvoie qu'à l'incommunicable, au silence que cachent le bruit et la fureur. Le propos n'est donc pas d'éclairer la lanterne de qui voudrait comprendre pourquoi la police a donné la charge sur une foule pacifique, pourquoi telle ville pousse au crime, pourquoi ci et pourquoi ça. Comme dans tous les récits, on entendra ici plus de voix que de causes, où chaque voix explorant dans son monologue sa cause ou son absence de cause, ce qui lui appartient en propre, sa part de quête et d'ignorance. Après tout, il se peut que les choses, mais lesquelles, se soient passées ainsi dans une île de la Caraïbe. Une foule qui marche, tombe, se relève, appartient au monde du visible. Mais que diable se passe-t-il dans la tête des gens? Dans celle, par exemple, d'un étudiant qui s'appellerait Lucien Saint-Hilaire, alors qu'il descend la colline en caressant le sol de ses pas pour ne pas réveiller son frère, ses voisins, puis rencontre un certain nombre de personnes, et dans leur tête aussi se passe beaucoup de choses. Un étudiant qui marche, qui existe et qui n'existe pas, et pose sans réponse la question de l'existence. Sans savoir qu'au bout de la marche, il va mourir. Ce que le lecteur sait déjà au début du récit, prenant ainsi sur le héros une inutile longueur d'avance. Et en fait, ce récit bicentenaire, c'est l'histoire d'une manifestation et de la répression qui suivra. Et moi, j'ai détesté Lionel Trouillot pour... cette saloperie de phrase ce héros qui, au bout de sa marche, va mourir et que le lecteur le sait avant lui, ça m'a mis en colère d'avance. J'ai vite oublié, en fait, tellement le récit, il est très court. C'est extrêmement bien fait. Et le dernier chapitre, qui est le chapitre annoncé au départ, le chapitre de la mort, c'est un chapitre sur la manifestation. Et c'est décrit, c'est hyper dense. On voit plein de gens, on voit tout ce qui s'est mis en place pendant 100 pages d'un seul coup. Ça vient converger en un point sur une minute, et c'est la minute où il s'écroule, quoi. Et là aussi, c'est incroyable de ce que ça dit de Haïti aujourd'hui, quoi. Et le troisième, qui est mon préféré, il s'appelle Quand j'avoue. Quand j'avoue, j'en ai déjà parlé l'année dernière, quand on parlait de littérature haïtienne. Quand j'avoue, c'est l'histoire d'un petit groupe d'amis. Ils sont amis depuis l'enfance. Ils sont pauvres. Et il y en a un qui se démerde un peu mieux que les autres, en fait, parce qu'il se démerde pour réussir à continuer à aller à l'école. Réussir à se faire un peu de pognon en écrivant les devoirs des plus riches que lui. Et en fait, c'est l'histoire de ce petit groupe d'amis, de comment ils vont essayer de faire quelque chose pour leur quartier, pour essayer de survivre, essayer d'apporter un peu de joie, d'ouverture culturelle, et comment ils vont se faire dégommer par le pouvoir en place, par la réalité, et comment surtout ça va faire exploser leur relation entre eux, quoi. Et c'est un livre superbe. C'est sans doute le plus facile à lire de Lionel Trouillot, celui qui pose le plus de contexte, qui est le plus romanesque, où il y a moins d'ellipses dans les phrases. Enfin, il est vraiment super beau. Je reprends mon souffle et je lis la manière dont il commence. C'est en suivant ces lignes de faille, quand on préfère aux choses l'apparence des choses, qu'on se trompe d'itinéraire et devient le clown de soi-même. J'ignore où Mangeanne s'en va chercher des phrases comme ça. S'il faut croire ce qu'elle raconte, elle n'a connu dans son enfance que la peau grise du syllabaire et un livre de calcul mental s'arrêtant à la règle de 3. Peut-être les adages contiennent-ils quelques vérités. L'âge amène parfois la raison. Et il est des vieilles dames qui, sans avoir rien lu, peuvent se mettre aux heures graves à parler comme un livre. Assis sur le rebord du trottoir, devant la maison de Mangeanne, c'est l'un de nos sujets favoris avec le petit professeur, les âges et les itinéraires. Pourquoi vas-tu ici et pas là? Qui en toi est le maître du chemin que tu suis? Toute marche conduit-elle quelque part? Popol, mon frère, dit que j'ai fait mes premiers pas à 1 an. Il y a donc 23 ans que je marche. Je sais exactement le nombre de pas entre le bord du trottoir devant la maison de Mangeanne et l'entrée principale du grand cimetière. Entre le grand cimetière et la faculté de linguistique. Entre la faculté de linguistique et la succursale de la banque commerciale, où des militaires étrangers en uniforme entrent parfois avec leurs armes. Entre la succursale de la banque commerciale et mon bord de trottoir. Je sais aussi que depuis l'enfance, tous mes pas me ramènent au bord du trottoir, devant la maison de Mangeanne, mon lieu de méditation où, sentinelle des pas perdus, je passe mon temps à cogiter sur la logique des parcours. Sentinelle des pas perdus, c'est le petit professeur qui m'appelle ainsi. Pourtant, il est comme moi, avec 30 ans de plus, ou je suis comme lui, avec 30 ans de moins. Sentinelle des pas perdus. Sans pouvoir rien y changer, nous passons beaucoup de temps à deviser sur les itinéraires. Et le soir, nous posons des questions qui restent sans réponse. Et moi, où vais-je? Pour l'instant, j'habite ce journal que je tiens pour fixer mon regard sur ma ville occupée, sur mon quartier habité par autant de morts que de vivants, sur les allées venues de milliers d'inconnus que je croise, sur d'autres que je n'ai jamais vraiment croisés. On ne peut que deviner leur présence derrière les vitres fumées des voitures de luxe et des véhicules officiels. Aujourd'hui, je végète sur mon bord de trottoir en jouant aux philosophes. Mais demain, qui serai-je? Et comment, comme tout le monde, habiterai-je en même temps la vérité et le mensonge, la force et la lâcheté? Quel soi-même on finit par être, au bout de quel parcours? C'est trop beau. Et ce livre-là, c'est aussi le livre où, donc quand j'avoue, où Trouillot, il est le plus explicite sur sa colère contre les ONG, contre les Américains, contre tous ces trucs-là qui fleurissent sur, soi-disant, la fatalité qui viendrait frapper Haïti, sur la manière dont on a bien, bien profité du séisme de 2010 pour réoccuper le pays, pour reprendre position un peu partout, s'octroyer un pays qui est... Enfin voilà, ils occupent le pays depuis le début du siècle, en fait. Et 2010, ça a été que un prétexte pour soi-disant aider les Haïtiens, mais en fait, comme il le décrit, c'est juste des voitures de luxe et puis des ONG qui justifient leur existence en étant en Haïti. Et en fait, Haïti, c'est un tout petit pays. C'est le pays qui concentre le plus d'ONG. Pour quelle efficacité? Et du coup, je vais finir par lire, parce qu'il est poète aussi, deux poèmes de Trouillot dans une anthologie poétique qui s'appelle « C'est avec main qu'on fait chanson ». Un, justement, qui parle de ça, de l'occupation, et un autre qui est totalement différent, parce que Lionel Trouillot, c'est aussi un poète qui écrit des poèmes d'amour. Donc le premier s'appelle « Adieu l'ami » aux employés de la MINUSTAH et des ONG. Ma lettre sera brève, je veux que tu t'en ailles. Avec tes ONG, tes uniformes, ta bonne et ta mauvaise conscience, tes experts et tes apprentis, tes lettres de mission et tes prises de risque, ton étrange art de vivre qui pleure sur moi le matin en concluant que ton aide est nécessaire à ma survie, et fais la fête le soir à The View, au quartier latin. Tu aimes mes mets et mes montagnes. Dans tes randonnées, tu croises des paysannes qui portent des seaux et des paniers sur leur tête, et tu te dis « comme elles sont belles ». Vous marchez aussi vite les unes que les autres, pas pour les mêmes raisons. Et quand tu vas nager, tu ne vois pas les frêles embarcations qui livreront des naufragés aux requins et des enfants perdus aux gardes-côtes de Floride. Tu bois des coups, tu tires des coups et tu m'aides. Tu as jugé qu'il me manquait des maladies. Tu m'en as amené une nouvelle. Et depuis, sincèrement, tu m'aides à la soigner. Tu sais, je suis venue à fond de cale, j'ai survécu. On m'a inventé des dettes que j'ai payées, j'ai survécu. On a assassiné mes frères, Peralt, Alexis, beaucoup d'autres. J'ai salué leur légende et pleuré leur absence, et j'ai survécu. La terre a tremblé et la ville s'est couchée sur moi. Sous des tentes et des hangars, j'ai survécu. À force de me regarder survivre, tu as conclu à l'extrême gentillesse d'un troupeau de moutons qui ne se fâche jamais et belle à tout venant. Tu t'es trompé, mon frère. Même un mouton pelé a droit à la colère. Aujourd'hui, mon vœu est que tu m'aimes moins, ou assez, pour partir. Il sera temps pour toi de revenir, en ami. Quand j'aurai retrouvé le droit de décider d'un Noël à ma convenance et des couleurs du nouvel an, reviens-moi, mon ami, et nous ferons la fête. Et le dernier s'appelle « Clandestinité ». Pour mon amour, j'aurais vainement cherché refuge dans le bréviaire des métaphores. Toute la nuit, j'ai veillé sur l'absence des mots. Qu'est-ce qu'écrire sans t'écrire ? Dans la nuit, un homme est tombé, ou un arbre. Et dans la maison d'à côté, personne ne saura à quelle vitesse battait son cœur. Il y a toujours une maison, un campement, à côté de l'amour. Que savons-nous de la solitude d'un poème raté ? Je cache ton nom comme un crime. Toute plume sous surveillance sera cassée comme un bras mort. Et ne reste au matin que l'épuisement d'une veille, sans fruits mûrs ni écho.
Merci, c'est beau.
Oui, c'est Lionel Trouillot. Hein. Vous pouvez retrouver à peu près tout sur le site Île en Île. Voilà.
Bien. Allez, je parle du petit article que j'ai lu. J'ai lu ce matin un court article dans le Bondy Blog signé par Miguel Schema, donc qui s'appelle Bourdieu, l'expérience, l'aliénation et moi. Et alors, que je reprenne mes notes, oui. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est... en gros, il reprend un truc, une phrase ou un argument qu'on entend dans tout le milieu militant, quasiment maintenant, quoi, que, en gros, il faut donner la parole aux concernés, celles et ceux qui font l'expérience de la domination, l'exploitation, l'aliénation, sont les mieux placés pour parler de ce qu'ils vivent, et les mieux placés à la fois pour parler et pour comprendre ce dont il est question. Et donc, du coup, moi, je suis d'accord avec ça pour plein de raisons, parce qu'en gros, il y a eu une grande, grande dérive à essentialiser les gens et à parler à leur place. Donc on peut là-dessus penser à tout ce qui est le discours sur les femmes voilées, par exemple, où on parle à leur place de ce qui serait bon pour elles, etc., et qui mène à certaines conclusions qui peuvent être totalement décalées avec ce qu'elles vivent vraiment et prendre des positions totalement atroces, quoi, ou racistes. Ouais. Du coup, en t'entendant le premier poème là, que tu as lu, ça me fait penser aussi que c'est pareil pour les ONG à Haïti. C'est aussi, on vous écoute pas, mais en fait, on va faire ce qui est bon pour vous et on sait ce qui est bon pour vous. Je trouve y a un grand intérêt à cette pensée. On voit pourquoi, en tout cas, ce discours-là, il est très présent. Il n'est pas à renier en bloc. Ce que je trouve intéressant dans son article, c'est que lui, donc, il dit, en gros, il a regardé ou il a re-regardé le documentaire « La sociologie est un sport de combat » de Bourdieu, de Pierre Carl, où on suit Bourdieu. Donc c'est un documentaire qui date de 2001. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré ce documentaire. Il est hyper intéressant. Et il est facilement trouvable, il me semble, sur les internets. Il dit qu'en regardant ce documentaire, il s'est dit que le cœur du message, on va dire, de ce qui était dit là-dedans, c'était en fait l'expérience ne fait pas tout. Et en gros, il y a une phrase, alors je ne sais pas si c'est extrait du documentaire ou si c'est d'un écrit de Bourdieu, où il dit, en gros, il y a un tas d'homosexuels, mais il y a un seul Foucault. Et c'est intéressant, en gros, même si l'expérience d'être homosexuel est indissociable de ce que Foucault a pu produire et qu'il s'est appuyé sur son expérience, etc., c'est pas pour autant. Enfin, il y en a bien qu'un seul. Et du coup, ça m'a fait penser. Moi, en lisant ça, je me suis dit, oui, il y a 50% de femmes, mais il n'y a pas 50% de féministes. Et du coup, je trouvais ça intéressant de juste cette petite réflexion où il se dit lui-même, en fait, l'auteur là, de l'article, il dit que pendant assez longtemps, en fait, au sein de ses réseaux militants aussi, il disait toujours donc lui il est noir et il disait je fais l'expérience d'être racisé en permanence et donc je sais plus que toi et ma parole est plus importante. Et que en fait là il est en train de revenir un petit peu là-dessus et j'ai trouvé que c'était pas mal. En gros, il dit oui, il suffit pas d'être confronté à un système homophobe, sexiste, raciste pour le comprendre, et que un des principes de l'aliénation, c'est bien que d'autres s'accaparent du sens de ce que tu es en train de vivre et que tu vois pas forcément ce que tu es en train de vivre. Donc c'est pas un argument ultime de dire je suis concerné, donc j'ai tout compris et il est impossible que d'autres le fassent. Donc voilà, c'était juste rapidement le... Et un truc intéressant aussi, c'est que dans l'article, vraiment qui est très très court, hein, il ramène vers un autre article où en fait il a écrit pour le Bondy Blog il y a 6-7 ans un article où je sais plus le titre de l'article, mais c'est atroce. En gros, c'est un article hyper conservateur qui dit en gros, il y en a marre des jeunes de banlieue qui crament des bagnoles et machin. En gros, si on veut être pris au sérieux, il faut arrêter de faire des trucs pas sérieux, quoi. Donc il y a un article où il a relu avec la honte son article où il se dit en 6-7 ans, le mois d'il y a 6-7 ans a beaucoup changé, et notamment à travers des lectures de Bourdieu, il analyse cet article qu'il a écrit il y a 6-7 ans en se regardant comme un étudiant conservateur
sarkozyste,
sarkozyste, voilà. c'est assez, c'est pas mal. Donc voilà, sur un peu les positions des fois un peu dogmatiques qu'on peut avoir.
Du coup, je sais pas si j'ai bien compris ou pas. L'auteur de l'article, du coup, il dit le fait de vivre une situation ne fait pas après avoir une conscience forcément claire et une qualité du discours sur cette situation, notamment par exemple par rapport au racisme ou des choses comme ça. Mais est-ce que qu'est-ce qu'il dit par rapport au fait de parler d'une manière, je sais pas moi, universaliste à la place ou plutôt de ces populations par exemple avec ce mot racisé, il y a droit ?
Il pose pas cette question-là. L'article est vraiment court, donc il développe pas. Toi, ta question, c'est est-ce que, en gros, des blancs ont le droit de...
De parler de la situation des noirs, par exemple, en banlieue ?
Moi, c'est ce que j'en comprends, en tout cas, oui.
C'est-à-dire, par exemple, un chercheur blanc peut avoir le droit de parler des... quand même, ouais.
Oui. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mmh. Mais après, il ne le dit pas de cette manière. L'homme... Enfin,
d'ailleurs, en fait, rien qu'en posant la question, je me rends compte que c'est complètement fou ce que je pose comme question. Parce que... Mais j'ai l'impression que certaines personnes pourraient être dans ce discours-là.
Oui.
Que non, il y a forcément que... Ça, c'est comme si un historien, en fait, il aurait fallu qu'il soit à l'époque de la Révolution française. Donc, il est... combien de plus de 200 ans
un peu plus.
Un peu plus de 200 ans pour pouvoir en parler, quoi, par exemple. Et d'être... s'il parlait sans culotte, il faut qu'il soit un sans culotte. Il y a 200 ans, pendant... Voilà. C'est...
Moi, je pense que ce qui est important, c'est toujours de réfléchir. C'est-à-dire, c'est un peu le... Quand tu t'es... C'est pareil, si on peut dire... Il y a eu un gros travail, par exemple, de l'anthropologie sur le fait d'être européocentré, d'être... d'avoir un regard colonial quand il d'aller à l'étranger regarder des peuples avec toute ce regard colonial et tout ça, donc il faut décoloniser nos imaginaires et en tout cas il faut le prendre en compte, donc c'est pour ça que c'est intéressant de dire attention à la parole des concernés, attention voilà, réfléchir à ça, mais ce serait quand même dommage de se dire que de renier par exemple l'anthropologie en bloc en se disant bah non, en fait, vu que c'est des Européens blancs qui vont parler de une... ça n'a plus aucun intérêt, aucun sens, voilà. Mais juste faut l'intégrer que y a ça dans comme biais, quoi.
Ouais. Il y avait un article intéressant de Gérard Noiriel là, dans Le Monde diplomatique de janvier. En gros, sur cette histoire, pour dire aussi que le... Enfin, je reviens sur les banlieues, enfin, tout ce qui est, par exemple, les personnes racisées, comme tu dis. C'est avant tout des pauvres, en fait. Et bon, c'est sûr, avec cette possibilité-là, en plus, de contrôle aux faciès et de discrimination raciale et tout ça, quoi. Et donc, pour résumer sommairement, il rappelait ça, en gros, que notamment par rapport aux mobilisations et tout ça, il y avait quand même ça à rappeler. Et que, en fait, je pense que c'est aussi dans l'idée d'une optique de ne pas diviser, en fait, des classes populaires, en fait, entre elles, quoi. Ouais, parce qu'il y a la jauge aussi, enfin, comment dire, il y a la place que tu mets aussi aux choses et aux luttes entre elles, parce que là, en fait, sinon, voilà.
Après, quand tu dis c'est avant tout des pauvres, moi, je dirais pas ça, c'est-à-dire que il y a, enfin, c'est après tout le discours autour de l'intersectionnalité c'est pas la même chose d'être noir dans un milieu bourgeois que d'être noir dans un quartier populaire. Tu vas pas faire la même expérience, tout à fait, et pour autant, quand tu es noir en France, que tu sois d'une classe prolétaire ou d'une classe bourgeoise, tu feras de toute façon l'expérience d'être noir. Tu...
Donc il faut pleurnicher sur des noirs qui seraient des bourgeois dominants ou parce qu'ils seraient victimes ou...
Alors moi je pleurniche pas, mais ouais. Je pense que tu peux pas comment dire, tu peux pas dire que quelqu'un qui est noir et qui fait partie de la classe bourgeoise ne fait pas l'expérience du racisme. Et donc, ça ne veut pas dire pleurnicher ou je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est un fait. Donc, par contre, que ça s'entrecroise et que quand tu es noire, femme d'un milieu populaire, c'est vachement plus la merde. Pour moi, je réfléchis pas en pleurnichant.
Ouais, non, mais dans les milieux militants, il y en a qui réfléchissent beaucoup en pleurnichant. Mais sur cette question-là, je trouvais qu'il y avait un documentaire assez intéressant d'Arte en 4 parties sur O.J. Simpson et cette affaire-là, où on voit en fait que sa célébrité fait que il est en photo avec les flics de la ville, Los Angeles. En fait, il est avec la bourgeoisie blanche, en fait, accepté comme un des leurs. Et qu'après, en fait, il va utiliser le fait qu'il soit noir quand il va falloir se défendre à son procès. Et en fait, quand les flics vont venir faire perquisitionner chez lui, il va même enlever en fait toutes les photos de sa baraque où il était en photo avec plein de blancs, en gros avec tout la jet set locale et tout ça. Et en fait, le mec, il n'en avait rien eu à battre de la cause des Noirs. Et du coup, là, pour le procès, pour gagner le procès, il va utiliser ça. Et donc, du coup, des gens vont mettre dans ce procès la question raciale, et avec des gens qui vont défendre O.J. Simpson parce qu'il est noir et qu'il est forcément victime, quoi. Donc là, on est vraiment dans une espèce
d'instrumentalisation.
Ouais, et puis de si on déroule la chose par l'absurde, un peu en fait d'une situation en fait complètement aberrante, en fait, où ce croisement de la question de la couleur de peau et de la question sociale est mise en questionnement, en fait, dans toute la société, finalement, avec cette histoire-là. Et puis, en fait, c'est quand même un meurtre, sur un meurtre atroce, quoi. Donc, avec des gens qui défendent Mordicus, quelqu'un qui... Bon, il y avait beaucoup de... quand même de présomption pour que ce soit lui le meurtrier, enfin voilà. Mais le documentaire est vachement bien fait et met tout en relief la situation noire américaine, Rodney King avant, et tout le contexte en fait des luttes là-dessus aux États-Unis, quoi. Et ils y sont encore, quoi. Comme on a pu voir dernièrement. Enfin voilà.
On passe au sujet suivant, au Rwanda, avec Nico et Steph.
Ouais.
Allez.
Ouais, c'est reparti pour le Rwanda. Alors pourquoi ? Parce que ça fait l'actualité, le Rwanda. Ça fait l'actualité parce qu'en fait, on n'a jamais fini d'en parler d'un point de vue plus global, le rôle de l'État français dans le génocide des Tutsis. Eh ben, il y a encore du taf à faire pour que soit reconnu le rôle primordial qu'a eu dans l'État français la clique de Mitterrand, la diplomatie de l'époque et l'armée à son plus haut niveau dans le génocide, dans ce qui s'est passé et dans la complicité de cet État. Et plus concrètement, ça a fait actualité parce que Macron a lancé une commission d'historiens il y a...
Avril 2019.
Selon la mission qui donne à cette commission, c'est pour contribuer à une meilleure connaissance du génocide des Tutsis. Donc voilà, c'est toujours un travail à faire. On va revenir sur la commission, mais alors moi je voulais en parler parce que du coup il y a eu un article qui interviewe François Granet la semaine dernière, c'est un article du Monde du 18 janvier 2021. Donc François Granet, c'est qui ? C'est un physicien de formation, mais c'est aussi un membre de survie. Donc, Steph, tu peux.
Ouais, survie, c'est. Survie, c'est une association. Pardon, je refais. Une association qui existe depuis 1984 et qui a pour but de faire la lumière sur la politique de la France-Afrique, ses relents coloniaux. Et en fait, ils vont s'intéresser à, globalement, tout le continent africain, sur, aussi bien sur des questions d'élections, de pression sur les élections, que sur les, qui est Total et qu'est-ce que fait Total en Afrique. Et ils se sont particulièrement intéressés depuis avril 1994, donc depuis le jour du déclenchement du génocide, hein, 7 avril 1994, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup enquêté, beaucoup travaillé sur le terrain, beaucoup publié beaucoup de textes, d'articles autour de ce qui s'est passé sur ce mois et demi de génocide au Rwanda, et notamment sur l'implication de la France dans ce génocide. Il y a eu plusieurs personnalité importante à être intervenue dès 93, le président 93, donc un an avant le déclenchement du génocide, le président de l'association survie de l'époque, c'est Jean Carbonard, qui est interviewé sur un plateau télé, c'est avec Bruno Mazur, c'est ça, ouais. Et qui vient déjà alerter en fait de ça, de la situation au Rwanda, du massacre des Tutsis qui a commencé et qui était en train de vraiment vraiment se préparer, et son intervention elle est forte. Enfin voilà, il revient avec des images, il revient avec des arguments, et il alerte et il se passe rien. Plus tard, il y a un autre président de l'asso qui s'appelle François-Xavier Verschave. Je le dis bien le nom. Oui. Qui dès octobre 94 publie un texte qui s'appelle La France complicité de génocide. Et voilà, et en fait, c'est des gens qui n'ont de cesse depuis 25 ans d'essayer de faire la lumière, quoi, avec des preuves, avec des arguments à l'appui sur cette complicité de la France sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc François Granet en fait partie, et lui aussi lutte depuis longtemps.
Ouais, et du coup il a sorti un bouquin avec un autre auteur là dont j'ai oublié le nom l'année
Raphaël,
dernière.
Doridan, ouais.
Donc, où le titre c'est l'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda. Un bouquin qui est sorti l'année dernière, donc qui est très précis sur l'état des connaissances sur le génocide. Je reviens à l'article du Monde de la semaine dernière. Donc il y a une interview de François Granet, parce qu'en fait, il a obtenu du Conseil d'État, en juin 2020, un accès aux archives de François Mitterrand, qui était jusque-là, l'accès était bloqué, était protégé. Donc il a eu un accès aux archives juste concernant la politique de la France au Rwanda. Et voilà, l'interview est intéressante. Et alors, j'ai noté quelques propos. Du coup, voilà ce qu'il en dit de ses archives. Donc là, je cite François Granet. Elle confirme les résultats de nombreux travaux faits depuis 25 ans. Plus on avance, et plus le tableau est accablant. À aucun moment, de 90 à 94, on observe de panique ou d'aveuglement à Paris. Donc ça, juste, les archives viennent confirmer ce qu'on sait, hein, l'implication à son plus haut niveau de l'État français. Question du Monde. Ces documents confortent-ils l'hypothèse d'une complicité de génocide dont la France serait rendue coupable ? Réponse. Ce n'est pas la France en elle-même. La politique française qui a été menée est une complicité de génocide au sens précis de soutien actif en connaissance de cause, avec un effet sur le crime commis. Donc il ne s'agit pas de dire l'État français est génocidaire, a fait le génocide avec l'armée, avec le régime rwandais de l'époque, a été complice, sait ce qui se passait et a laissé faire. Okay. Complicité du génocide au sens précis, de soutien actif en connaissance de cause. Je vous renvoie à toute la série qu'on a fait sur le Rwanda où en fait on parle beaucoup de ça avec des preuves, avec tout un tas de travail fait par des journalistes, des chercheurs, des historiens qui le prouvent, on sait, c'est sur la table. Je continue. François Granet continue. La question suivante consiste à savoir si telle ou telle personne peut être sanctionnée. C'est ça le combat actuel. À cela, la justice a déjà répondu en disant qu'elle ne souhaitait pas enquêter sur ces individus, malgré la plainte déposée par des rescapés tutsis. Question du Monde. Reste-t-il des zones d'ombre sur la politique de la France au Rwanda entre 90 et 94? Pourquoi 90? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a l'entrée du FPR, donc c'est-à-dire des résistants tutsis, mais pas que tutsis, aussi des opposants hutus au régime d'Abyarimirana, du régime rwandais de l'époque, qui est une dictature. Ça commence en octobre 90, la première invasion du FPR. Et tout de suite, en fait, il y a un coup de fil d'Abyarimana à Mitterrand, et c'est parti, le soutien actif de l'armée française commence là. Donc je repose la question, reste-t-il des zones d'ombre sur la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994? Réponse, il y en a plusieurs. Parmi elles, le rôle de la France dans l'attentat contre le président Habyarimana le 6 avril 1994. A-t-elle soutenu des extrémistes hutus ou pris part à la décision, à l'exécution? Est-ce que des militaires français de l'armée régulière ou des mercenaires liés à la France ont participé? On sait aussi qu'il y a eu plusieurs dizaines de Français qui sont restés au Rwanda, en zone gouvernementale, pendant le génocide. Ont-ils fait seulement du renseignement, de la formation, du conseil pour les combats? Ont-ils participé au combat? Il reste enfin des zones d'ombre sur les questions de financement, sur le soutien aux génocidaires rwandais après le génocide. Bon, des zones d'ombre qui sont quand même les travaux actuels faits par tous les historiens, par survie, par des journalistes. La réponse, elle est claire et nette. Hein. En fait... Ces zones d'ombre ne sont pas des zones d'ombre. Il y a une espèce d'entreprise organisée par l'État, par des relais dans les universités, par des relais dans des plein de groupes de pression, pour ne pas avoir accès aux preuves matérielles qui sont accablantes. Je continue. Question de Le Monde. Emmanuel Macron a mis en place une commission d'historiens pour contribuer à une meilleure connaissance du génocide des Tutsis. Pour la première fois, toutes les archives leur ont été ouvertes. En quoi est-ce important? Réponse de François Granet. Cette commission pourrait faire avancer utilement la connaissance, mais elle permet aussi de gagner du temps et de reporter la reconnaissance de la complicité française dans le génocide. Emmanuel Macron fait comme s'il n'y avait jamais eu la mission parlementaire de 1998, ni la promesse de François Hollande en 2015 d'ouvrir toutes les archives aux chercheurs avant 2016. Promesse pas tenue, hein. Et il décide royalement de donner à sa commission l'accès à des documents qui ont été refusés même aux juges. Or, concernant son indépendance, les trois signaux que cette commission a déjà émis sont négatifs. Elle s'installe dans les locaux du ministère de la Défense. Elle publie en avril 2020 une note à mi-parcours dans laquelle elle blanchit d'avance l'armée française. Et à l'automne 2020, quand les partis pris inacceptables et les erreurs d'une de ses membres, Julie Dandurin, sont étalées en public, la commission ne s'en désolidarise pas. La reporteuse publique du Conseil d'État l'a bien souligné, ce dont a besoin le débat démocratique, ce n'est pas une commission choisie par le pouvoir, c'est que ses archives soient ouvertes à tous les chercheurs. Donc voilà, là, l'enjeu est là. Donc derrière cette commission, il y a quand même une tentative d'enfumage. Hein. Faut être clair, quoi.
Et c'est pas une obligation légale au bout de 30 ans? D'ouvrir les archives
50.
Ah, c'est 50 ans.
Ouais. Et pour les archives de Mitterrand, c'était 60 même.
Ah ouais.
Ouais. Okay. Mais après, il s'arrange comme il veut, en fait, on va dire, avec les droits ou pas.
Et c'est quoi les actes français reprochés dans les... Enfin, dont on a connaissance ou qu'on... Je sais pas.
Dans la complicité du génocide?
Ouais.
C'est... La liste est très très longue.
Ouais. Écoute les émissions qu'on a faites.
Ouais, il y a plusieurs émissions.
Ans.
Pour rappeler aux
éditeurs.
On peut le rappeler sur. On peut le rappeler sur.
Vite fait, mais.
Ouais, sur deux opérations militaires. Donc l'opération Norrois, qui est l'opération déclenchée en 90, quand le FPR, donc le Front Patriotique Rwandais. Fait ses premières incursions à la frontière donc pour essayer de renverser le régime. Il y a un soutien matériel, humain, qui est envoyé au Rwanda de de la part de l'État français. Donc c'est des militaires qui vont se retrouver en action pour stopper le FPR. Alors même qu'on sait que le régime d'Habyarimana, c'est un régime dictatorial, mais c'est un régime qui fait des pogroms, qui cautionne des meurtres de Tutsi, quoi, déjà. Enfin, après, c'est bien plus vaste que ça. Les chefs d'état-major de l'armée dite régulière, donc de l'armée d'Habyarimana, il y a des Français dans ces bureaux-là, il y a des Français qui forment les militaires rwandais qui, après, se retrouveront en action pour perpétrer le génocide. Bref, de toute façon, c'est un soutien, massif au régime d'Habyarimana. Puis après, quand Habyarimana meurt dans l'attentat du 7 avril, il y a un gouvernement de transition qui est un gouvernement clairement génocidaire, qui est un gouvernement clairement qui revendique la suprématie hutu, le peuple majoritaire, tout ça, et qui déclenche le génocide. Donc c'est à partir d'avril 1994. Les dignitaires, il y a un ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui ils sont reçus à l'Élysée en mai de 94. Ouais. Donc avec un soutien affiché, en fait. On sait déjà que le génocide a commencé. On le sait parce que y a des opérations militaires françaises. Déjà, des militaires français sont sur le territoire. Les ressortissants français sont évacués, les ressortissants belges sont évacués. Et puis après, il y a l'opération turquoise. Et là, l'opération turquoise, c'est une opération pseudo-humanitaire qui est déclenchée. C'est en juillet, c'est juillet-octobre 94. En fait, soi-disant, pour stopper le génocide devant l'inaction totale de l'ONU... des Nations Unies, qui d'ailleurs, les casques bleus ont été retirés du Rwanda entre-temps. Donc il y a cette opération turquoise sous couvert d'humanitaire qui va en fait favoriser la fuite des dignitaires du régime génocidaire. Et derrière, ça prendrait vraiment beaucoup de temps de l'expliquer et tout, mais on a fait des émissions avec Nico qui sont retrouvables sur le Rwanda. Il y a... Un massacre qui a eu lieu à Bicécéro, où là, on sait, il y a des preuves, il y a des vidéos où on voit des militaires français être informés du fait que ça massacre à tour de bras à Bicécéro, et ils mettent 3 jours à intervenir. Parce que pendant ce temps-là, il fallait faire leur saloperie de couloir humanitaire qui sortait des dignitaires hutus du Rwanda pour les envoyer au Zaïre. Après, il y a des zones d'ombre sur des barbouzes qui sont notamment Paul Baril et d'autres qui étaient des anciens de l'armée française proches de François Mitterrand, qui se retrouvent au Rwanda pendant 4 ans à vendre des armes. En fait, encore une fois, jamais il est dit que des militaires français ont tué des gens. C'est bien pour ça qu'on ne dit pas... Le gouvernement français est génocidaire. Mais il y a une complicité de génocide. On a armé, formé, soutenu un gouvernement génocidaire. Jusqu'au bout, et en le sachant.
Et après, il va y avoir aussi une entreprise faite par les diplomates et les chefs des... l'État français.
Ouais.
De nier ce qui s'est passé, de nier cette complicité et de nier la réalité du génocide en avançant la thèse du double génocide. Les Tutsis aussi auraient entrepris un des génocides sur les Hutus. Bon, voilà, il y a toute une relecture de l'histoire.
Je vais en parler justement. Si t'avais terminé sur Granet.
Ouais, j'ai terminé, mais du coup, c'était juste qu'après, les conséquences de l'implication de l'État français, ils se sont retrouvés aussi sur l'obstruction qu'ils ont fait sur la justice. Bon, après, on peut tirer des fils, il y a des zones d'ombre sur le financement, avec la BNP qui a participé, etc. Okay.
Et juste très très rapidement, est-ce que, enfin, du coup, c'est des considérations pour l'État français, c'est des considérations géopolitiques en rapport avec les matières premières ou c'est quoi, c'est...
Alors, c'est à la fois très très trouble et peut-être très très simple. Moi, en tout cas, dans mes lectures et dans ce que j'en comprends, c'est une espèce de vision très très binaire qu'avait Mitterrand et sa cour de l'état-major de l'époque, et puis des gens comme Védrine, etc. C'est une vision choc de civilisation entre la France, entre l'influence française, l'influence francophone et l'influence anglo-saxonne. Ils ne voulaient pas lâcher ce précaré là, parce que tout autour, t'avais des pays plutôt soutenus par les États-Unis ou l'Angleterre. D'accord, et du coup, t'as une espèce de bataille idéologique qui remonte dans l'histoire à un vieux mythe du rôle colonisateur de la France. Moi, j'en suis là pour essayer de comprendre leur aveuglement.
Oui, enfin, le
mythe de Fashoda, des trucs comme ça. C'est notre précaré.
Oui, c'est des intérêts géopolitiques très pragmatiques, d'influence entre puissances étrangères. Ouais, sur un. Voilà.
Le territoire du Rwanda, il n'a pas grand intérêt en termes de ressources naturelles. C'est que c'est une zone, après, il y a le Congo, il y a le Zaïre à côté. Là, il y a plus d'intérêt.
Il n'y a pas les diamants au Rwanda ? Non, c'est au Congo.
Non, il n'y a pas grand-chose.
Et du coup, moi, je veux bien... Tu parlais de la commission. Donc la commission, elle a reçu sa lettre de mission, parce qu'on est friand d'anniversaire. La commission a commencé à travailler le 7 avril 2019... donc date anniversaire du déclenchement du génocide, a rendu sa note intermédiaire le 7 avril 2020 et rendra ses conclusions finales le 7 avril 2021, donc très bientôt. Il y a autour de ce qu'on disait là sur l'entreprise d'enfumage, 25 ans après, elle est toujours à l'œuvre, et elle est toujours à l'œuvre violemment en France. Ça passe parce que... On n'y fait pas trop attention, mais elle est vraiment à l'œuvre violemment. Donc déjà sur cette commission d'enquête, il suffit de regarder un peu les noms des gens qui sont choisis. Donc le président de la commission d'enquête, donc qui s'appelle, j'ai oublié, Duclair.
Vincent Duclair.
Merci, Vincent Duclair. Donc... lui, déjà, n'est absolument pas spécialiste du Rwanda, à tel point que la première fois qu'il s'est rendu au Rwanda, c'est l'année dernière. Il n'y était jamais allé. Bon, bref, passons. Un des journalistes qui a beaucoup enquêté sur ces questions au Rwanda, qui est Jean-François Dupaquier, dans une prise de parole, lui a d'ailleurs fait remarquer, c'est quand même très surprenant que vous acceptiez... cette mission, alors que vous ne connaissez absolument pas le Rwanda. Bon. Après, en France, il y a des spécialistes, vraiment, des chercheurs, qui sont reconnus mondialement pour leurs travaux sur le Rwanda. On peut en citer trois. Il y a d'abord Hélène Dumas, qui est chercheuse au CNRS. Il y a Stéphane Audouin-Rouzeau, qui est, pareil, enseignant d'histoire à l'EHESS. Et un troisième, qui a soutenu une thèse sur le Rwanda, dont la thèse a été publiée par La Découverte, qui s'appelle Florent Piton. Ces trois-là ne font pas partie de la commission d'enquête. Stéphane Audouin-Rouzeau en a été écarté, soi-disant parce qu'il aurait des positions trop antimilitaristes. Admettons. Et même admettons que ça s'entende pour Stéphane Audouin-Rouzeau, qui est spécialiste de la Première Guerre mondiale. En revanche, c'est incompréhensible pour Hélène Dumas. Hélène Dumas, c'est vraiment la grande spécialiste de cette question. C'est la seule historienne spécialisée sur le Rwanda qui, en plus, aujourd'hui, parle le kinyarwandais, donc c'est-à-dire la langue rwandaise. C'est la seule. Si on avait voulu faire un travail sérieux avec cette commission, Hélène Dumas en ferait partie. Dans les notes préparatoires, il était question que Annette Wieworka, qui est elle aussi une éminente historienne, spécialiste de la Shoah, fasse partie de cette commission d'enquête, cette commission de recherche. Elle n'en fait pas partie non plus, elle a été écartée. Restent donc des gens qui sont spécialistes de l'histoire militaire, qui sont inspecteurs de l'éducation nationale. Vincent Duclair, donc, qui est lui spécialiste du génocide arménien. Alors c'est louable, hein, c'est pas la question, mais en tout cas ils sont pas spécialistes du Rwanda. Et puis le sort de Julie Dandurin, là, qui finalement s'est retiré des travaux en novembre parce que le Canard Enchaîné a publié des textes et des propos qu'elle aurait tenus, notamment à propos de l'armée française, où elle disait « L'histoire rendra justice à l'armée française et à son action pendant l'opération turquoise ». Bon, avec ces a priori-là, ça va être compliqué d'aller ensuite conclure que, qu'il y a une complicité. Voilà. Donc c'est un peu... Puis la question de l'indépendance, enfin, il le pointe Granet, la commission est complètement indépendante, mais logée au ministère de la Défense. Bon, d'accord, admettons, quoi. Y a un autre truc qui s'est passé cette année en France et qui est assez éclairant aussi. C'est un colloque qui a été organisé par le Sénat. Ça a eu lieu en mars 2020. Et ça s'appelait « L'Afrique des Grands Lacs, 60 ans de tragique instabilité ». Et en fait, les gens qui étaient invités à prendre la parole à ce colloque au Sénat, dedans, il y a deux négationnistes. Et franchement reconnus, il y en a un, Onana, qui est un historien...
Camerounais,
ouais. Et qui est en ce moment en train d'être jugé parce que il a déclaré en 2019 que le génocide des Tutsis n'avait pas existé. Et une deuxième, une journaliste canadienne qui s'appelle Judy Revers, qui a écrit un texte il y a 2 ans, qui vient d'être publié en France, là, qui s'appelle « L'éloge du sang », où en gros, elle explique comment... Alors, elle accrédite cette thèse du double génocide. Le double génocide, c'est l'idée que les Tutsis auraient massacré les Hutus, que Paul Kagame, donc leader du FPR à l'époque, actuel président du Rwanda, serait presque l'instigateur du génocide des Tutsis. Et comme ça, il arrivait en conquérant, libérateur, et il s'emparait du pouvoir. Bon. Son livre est un tissu de mensonges, d'ineptie. Manifestement, elle ne sait pas lire les chiffres. Tout ce qu'elle écrit, ça tient absolument pas compte de par exemple, la mission parlementaire de 98, de toutes les actions en justice qui ont pu avoir lieu aussi bien en France, en Belgique, qu'au tribunal pénal international pour le Rwanda. En gros, son livre, c'est n'importe quel historien un peu sérieux. Le balaye d'un revers de main. Il y a un article super bien sur le site de Survie qui parle de ce livre-là et qui décortique point par point à quel point elle est complètement... elle est folle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Sauf qu'elle est folle, c'est... En fait, c'est pas vrai. Elle est là avec un projet politique précis, quoi. À savoir écarter cette possible responsabilité de l'État français dans le génocide... des Tutsis au Rwanda. Et du coup, il y a un article du Monde du 10 mars 2020 qui va raconter un peu ce colloque, l'Afrique des Grands Lacs, tout ça, où on nous explique que le colloque va s'ouvrir avec un bel hommage à Pierre Péan, historien mort l'année d'avant, mais qui a écrit des livres tout à fait controversés sur le Rwanda, en présence d'Hubert Védrine, qui, encore une fois, à l'occasion de ce colloque, assène un des trucs qu'il assène toujours, et c'est bien normal parce qu'il essaie de sauver ses miches, parce que lui, il est particulièrement concerné par ce qui s'est passé et par les décisions qui ont été prises, et donc qui reparle de cette histoire de double génocide, en disant que cette question doit être débattue et que l'histoire est une révision permanente. Et en gros, tout ça abrité dans les locaux français, au Sénat. Hein. Donc, en fait, c'est un peu... C'est assez fou comme démarche. C'est complètement schizophrène de dire on va monter une commission de recherche, on veut faire toute la lumière, et en fait, c'est pas la lumière qu'ils veulent faire, c'est bien un truc d'obscurantiste, de cacher la réalité. Et comme il y a peu de gens qui sont... On parle jamais du Rwanda, en fait. Déjà, quand on en parlait à l'époque, c'était pour dire des insanités. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Eh ben, ça passe, en fait. On invite des négationnistes au Sénat, et tout va bien. Et on boit des coups après avec Védrine.
Ça fait penser à l'IGPN un peu, le principe d'enquêter sur soi-même.
On va finir sur le Rwanda.
Ouais.
De toute façon, si vous voulez un peu mieux connaître, bah, on vous renvoie aux émissions qu'on a faites, hein, qui sont sur le site de Piquet.
Ouais.
Voilà. On va en recommencer une série, parce que les émissions qu'on a faites, c'était vraiment sur, on va dire, la chronologie des événements, essayer de comprendre les différents acteurs, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Là, on va plus partir sur l'après, sur le travail de la justice et des témoignages, comment on se reconstruit après un tel phénomène hallucinant. Bah, pour finir, en fait, du coup, juste pour dire, c'est pas fini, hein, le Rwanda, c'est une lutte, quoi, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et juste pour illustrer cette espèce de négationnisme qui est à l'œuvre et cette espèce de négationnisme des élites bien pensantes, et ben, je vais finir par lire un texte de Daniel Mermet qui est une réponse à Jean d'Hermerson, vous allez voir. J'en profite pour dire que là-bas, si j'y suis, avait fait à l'époque une série de reportages extraordinaires sur les événements. Ils sont durs à écouter, mais ils sont indispensables pour comprendre ce qui s'est passé là-bas, quoi. Donc voilà. Donc Jean d'Hermesson, quand il est décédé en 2017, donc il y a eu un hommage unanime à ce type-là, des flots d'éloges, des superlatifs en boucle, des bons mots. Voilà, fabrique une espèce d'icône des médias. Daniel Mermet avait réagi à cette espèce d'hommage unilatéral à une ordure, vous allez voir pourquoi. Donc voici ce qu'il écrit à l'époque. Parce que, vous allez voir. Donc voilà, donc c'est parti, je lis Daniel Mermet. Hein. Donc voici une ombre en forme de casserole un peu encombrante pour l'emporter au paradis, ce Jean d'Hermesson. En mai 1994, dans notre émission sur France Inter, nous avons diffusé une série de reportages sur le génocide du Rwanda, notamment dans le charnier de Nyarubuye que nous avions découvert et où parmi des centaines de cadavres, nous avions trouvé une fillette de 13 ans qui avait survécu parmi les cadavres, Valentine Iribagiza. Inutile de dire le choc profond que furent pour nous et pour les auditeurs ces scènes inimaginables du génocide des Tutsis. Nous sommes revenus plusieurs fois. Quelques semaines plus tard, début juillet, une fois les massacres achevés, Jean d'Hermesson se rendait au Rwanda pour le compte du Figaro, assisté d'une escorte militaire française. Le nombre de victimes en 100 jours de tuerie était alors estimé à environ 800 000. La qualification de génocide était unanimement reconnue. À 69 ans, Jean d'Hermesson découvrait le Rwanda. Il en a rapporté trois articles publiés les 19, 20 et 21 juillet 1994 dans le Figaro. Jean d'Hermesson de l'Académie française n'épargne pas ses lecteurs de toutes les inepties sur les Rwandais et sur le Rwanda que vraisemblablement le service d'information de l'armée française lui a gentiment fourni, selon la militante rwandaise Kagatama sur son blog. Il reprend tous les clichés racistes imposés par les colonisateurs. Citons Jean d'Hermesson. Les Tutsis parlent anglais et swahili. Les Tutsis seraient grands, élégants, rapides, organisés. Les Hutus seraient petits et moins bien physiquement. Il n'est pas impossible que les Tutsis aient des origines nilotiques. Ils rappellent à certains égards le type égyptien. On a pu dire que les Tutsis jouaient le rôle des Israéliens et les Hutus celui des Palestiniens. On a même avancé avec un peu trop de subtilité que les Hutus ne veulent pas tuer, mais qu'ils tuent, et que les Tutsis veulent tuer, mais qu'ils se contrôlent. Je continue à citer Jean d'Hermesson. Un pas de plus, et on passe à la conviction que le FPR, un mélange de fascisme, de marxisme et de Khmer Rouge, est tout simplement l'ennemi. S'il faut tirer une leçon du Rwanda, c'est que les hommes sont tous coupables et qu'ils sont tous innocents. Sortez vos mouchoirs, il va y avoir des larmes. Âme sensible, s'abstenir. Le sang va couler à flot sous les coups de machette. Partout dans les villes, dans les villages, dans les collines, dans la forêt et dans les vallées, le long des rives ravissantes du lac Kivu, le sang a coulé à flot et coule sans doute encore. Ce sont des massacres grandioses dans des paysages sublimes. Voilà ce qu'il a commis, Jean d'Hermesson. Réponse de Daniel Mermet, je finirai là-dessus. Voici la suite que j'ai donnée à cet article dans notre émission du 19 septembre 1994. La diffusion fut suivie de quelques remous du côté de la direction de France Inter qui avait été saisie par le secrétariat de l'Académie française. Mais le roublard d'Hermesson n'alla pas plus loin. L'encre sèche vite et l'oubli fait son œuvre. Oui, mais pas toujours. La leçon de cette tragédie, c'est que les hommes sont tous coupables et tous innocents. Voilà la leçon que M. Jean d'Ormesson de l'Académie française, envoyé spécial au Rwanda pour le journal Le Figaro, le 21 juillet 1994, tirait. Et M. Jean d'Ormesson a raison. Tous innocents, tous coupables. Vous prenez un type comme Hitler. On a dit qu'il était coupable, certes, mais en même temps, au fond, Hitler était innocent. Prenons les Arméniens, les Juifs, les Tzikanes, les Khmers, les Kurdes et les Tutsis. Ils sont innocents, certes, mais en même temps, ils sont coupables. Le 21 juillet 1994, lorsque Le Figaro publie le papier de Jean d'Ormesson, la tragédie rwandaise était identifiée. Il ne s'agissait pas seulement d'une tragédie comme une autre, il s'agissait d'un génocide. En France, c'est Mme Lucette Michaud-Chevry qui est la première à employer ce terme, ensuite repris par le ministre des Affaires étrangères d'alors, M. Alain Juppé. M. d'Ormesson, grande lumière de notre hexagone, homme informé, académicien, envoyé spécial d'un quotidien prestigieux, ne pouvait pas ignorer qu'il était en présence d'un génocide. Aujourd'hui, 80 années après le génocide des Arméniens, M. d'Ormesson pourrait-il se présenter devant les Arméniens et leur dire « La leçon de votre tragédie, c'est que les hommes sont tous coupables et sont tous innocents. » Pourrait-il prononcer les mêmes mots face aux Juifs, aux victimes des Khmers rouges ? Mais laissons d'Ormesson, car enfin, il n'est pas en face de moi pour répondre, et puis c'est un homme charmant, et je dois dire, que j'apprécie le soin qu'il apporte au choix de ses cravates. Mais inconsciemment, sans aucun doute, il dit notre regard sur le génocide du Rwanda. Sous un prodigieux édredon de cynisme, de lâcheté et d'ignorance, nous avons procédé à une perte de conscience. Plus de frontières. Et si c'était ça le naufrage, l'idée même de sans frontières. Plus de limites, plus de morale, plus de tabous. À quoi bon la justice ? Pourquoi ce commandement, tu ne tueras pas ? S'il a fallu un commandement, c'est que ça n'allait pas de soi. Le plus grand geste civilisationnel a été d'établir ce partage des eaux entre nos instincts de mort et nos instincts de vie. Ils sont très proches. Ils voisinent là derrière, dans notre vieux cerveau, là où, très précisément, tapaient les machettes. Le rempart n'est pas épais entre les deux. Les plombs peuvent péter à tout moment. L'histoire des hommes, c'est cette digue. Digue chaque jour à construire, chaque jour menacée. Tous, nous travaillons sur cette frontière sans toujours le savoir. Pas seulement les philosophes, les politiques, les religieux, les journalistes, les artistes, les géomètres et les poètes. Pas seulement Sonny Rollins et Gilles Deleuze, mais aussi la maman qui dit à son petit « On ne tape pas sur son frère. Va faire dans ton pot. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. » C'est aussi chaque jour, chaque soir, la mémoire ordinaire. C'est mon frère qui nous raconte les camps pendant que ma mère fait la vaisselle. La leçon de la tragédie du Rwanda, c'est qu'il y a des coupables et qu'il y a des innocents. Le seul espoir, c'est que les coupables soient jugés. Il n'y a pas d'oubli, pas de deuil, pas de pardon, sans justice. Depuis 35 ans, depuis le début du cycle des massacres au Rwanda et au Burundi, les tueurs sont impunis. Pas de châtiment. C'est notre devoir à tous de tout faire pour que la justice soit faite, même si notre pays est impliqué. Blaise Pascal disait en substance, les hommes veulent la justice, mais ils ne savent pas laquelle. Trouver une justice est un défi énorme, mais c'est la seule façon d'empêcher que la lumière ne s'éteigne tout à fait. La leçon de la tragédie du Rwanda, c'est qu'il n'y a pas que le racisme des skinheads sans conscience. Il y a aussi celui plus pervers, plus mondain, plus refoulé, plus inconscient, d'hommes dont j'apprécie le soin qu'ils apportent à choisir leur cravate. Voilà.
On fait une pause.
Ouais.
Et on revient pour l'agenda.
Allez, je suis pas du tout prête.
C'est pas grave.
Si, c'est bon. On écoute Shannon Wright et Mansfield Till.
À tout à l'heure.